Et je vous invite à faire la lecture, chapitre 4, donc versets 1 à 42. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire !» Car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont aucune relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te donne, qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui répondit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient. » Où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce point le Christ ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Ah, voilà quelle belle histoire on a là. Magnifique récit de ces dialogues entre la femme samaritaine et Jésus. Jésus, il manie la métaphore à la perfection. La soif. D'ailleurs, souvent, dans ces métaphores, Jésus prend à contre-pied ceux qui l'écoutent, et ça donne souvent naissance à toutes sortes de malentendus. Mais là, il parle de la soif, et la soif, c'est, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, c'est la sensation de sécheresse là dans la bouche, produite par le besoin en eau dans l'organisme. Au sens figuré, c'est un désir avide de quelque chose. On peut avoir soif de pardon, soif de justice. Jésus, lui, il a soif. Il est fatigué, il a beaucoup marché. Alors il arrive au puits et il rencontre une femme qui vient pour puiser. Mais cette femme, elle aussi, a une soif. Mais c'est une soif intérieure. C'est une soif intérieure encore plus grande. Nous aussi, nous avons dans nos cœurs une grande soif que souvent nous essayons d'étancher en venant puiser à toutes sortes de citernes et à toutes sortes de puits dans ce monde. Mais rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde qui nous habite. Et ce matin, je vous propose de voir l'eau, qui est l'occasion. On verra ensuite que l'eau vive, c'est la solution. Et enfin, l'eau vive répandue, c'est la mission. Prenons ce premier point, l'eau, c'est l'occasion. Dans les versets 1 à 9, on voit Jésus et ses disciples qui traversent la Samarie pour se rendre en Galilée. Ils arrivent à Sichar. Et pendant que ses disciples sont partis acheter quelques vivres, Jésus s'arrête au puits. La Samarie, c'est une région qui est au nord de la Judée. Généralement, on pouvait aller en Samarie, soit en longeant la côte, c'est toujours plus joli la côte, ou soit en allant le long du Jourdain. Et après, on rejoignait la Galilée, comme ça. Mais là, Jésus est allé directement au travers de la Samarie. Et il y est allé pour ce rendez-vous avec cette femme samaritaine. La Samarie, c'était cette région qui tire son nom de la capitale de l'ancien royaume du Nord, un royaume qui était apostat et qui avait été livré par Dieu aux mains des Assyriens. En 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens entrent dans le royaume du Nord, ils pillent le royaume et ils emmènent en captivité ces 10 tribus du Nord. Le roi assyrien, il prend des Assyriens et il les envoie maintenant de l'autre côté en Samarie. Donc il envoie des colons en Samarie. Vous me suivez ? Voilà, merci bien. Alors, une petite parenthèse. Quand vous voyez en vol, vous voyez, le grand affiche en vol des enfants, vous pensez à mode avion. D'accord ? Donc maintenant, dès que vous voyez en vol, pensez mode avion pour mon téléphone. Voilà. Donc, vous y êtes avec la Samarie. On revient vers la Samarie. Donc, cette région, les 10 tribus ont été emmenées en captivité en Assyrie. Et puis, des Assyriens ont été emmenés, colonisés la Samarie. Et puis, ces Assyriens ont commencé à fréquenter les quelques Juifs qui restaient là. Et puis, se sont liés par mariage. Et puis, liés par mariage, ils se sont mélangés dans leurs croyances. Vous pouvez trouver tout ça en 2 Rois, chapitre 17. Et cette population, nouvelle population, mélangée, syncrétique, là, est devenue les Samaritains. Ils craignaient l'Éternel. Et ils servaient en même temps leur divinité assyrienne. Finalement, Les tensions ont éclaté après le retour des Juifs en Palestine, en Assyrie, en Samarie. Et le conflit est né tellement dur que les Samaritains ont décidé de ne plus aller adorer à Jérusalem et ils ont créé un lieu d'adoration sur le mont Garizim, comme le dit la Samaritaine. Là, ils ont dressé un temple pour pouvoir adorer. Mais ça, c'était au 4e siècle avant Jésus-Christ. Deux siècles avant Jésus-Christ, le roi asmonéen Jean Hyrcan est monté à Samarie et a détruit ce temple de Garizim. Vous imaginez la tension qui a pu naître de ces conflits entre les Juifs et les Samaritains. Sur le plan théologique, sur le plan religieux, les Samaritains et les Juifs nourrissent une grande animosité. Hein, c'est ce que dit l'apôtre Jean ici, verset 9. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Il est midi. C'est la sixième heure après le lever du soleil, nous est dit le verset 6. Le soleil est au plus haut. Là-dessus vient une femme pour puiser. Généralement, les femmes, elles venaient en groupe. C'était l'occasion de partager les nouvelles. C'était le Radio Sichard qui se passait là. Elle venait soit de bonne heure le matin, soit en fin de journée pour éviter justement la chaleur du jour. Et donc si cette femme vient en plein midi puiser de l'eau, c'est qu'elle ne veut croiser personne. Elle ne veut pas entendre les commentaires sur sa personne par les autres femmes. Elle ne veut pas croiser leur regard accusateur. Non, elle n'est pas la bienvenue en même temps que les autres. C'est une exclue. Elle sait pourquoi. Et toute la ville sait pourquoi. On ne parle pas à cette femme. Je suis frappé par l'approche de Jésus ici. Jésus, il sait qu'il a rendez-vous avec cette femme samaritaine. C'est l'occasion pour lui apporter la bonne nouvelle. Ce n'est pas les nouvelles, mais la bonne nouvelle qu'il veut lui apporter. Mais il ne l'aborde pas en lui disant « Hé, femme, toi tu es pécheresse, mais j'ai quelque chose pour toi. » Ce n'est pas du tout son approche. Non, il lui dit « Femme, est-ce que tu peux m'aider ? Femme, est-ce que tu veux bien me donner à boire ?» S'il avait dit « j'ai quelque chose pour toi », il dit « je veux rien des Juifs ». Et la conversation se serait arrêtée là. Mais en adressant la parole à cette femme, Jésus il a franchi de façon délibérée pratiquement toutes les barrières que les êtres humains sont susceptibles d'ériger entre eux. Barrière raciale, une barrière culturelle. Barrière sexuelle, barrière morale, il transgresse toutes les conventions de l'époque. Et du coup, cette femme, elle est très surprise. Elle dit, verset 9, « Comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire à moi, une femme samaritaine ?» C'est incroyable. Mais le fait de poser la question, elle entre en conversation avec Christ. Vous savez, dans le travail de propagation de l'Évangile qui nous est donné à faire, on peut parfois avoir une attitude condescendante envers les gens. Nous, on sait, maintenant on a tout compris de l'Évangile, alors maintenant je vais t'expliquer. Alors, tu t'assois, et puis tu m'écoutes, et puis moi je vais te dire. Puis vraiment, j'ai quelque chose à te dire, à t'apprendre. Tu vas comprendre maintenant ce que Dieu est venu faire pour toi. Et bien souvent, les gens rejettent parce que cette attitude condescendante, elle n'est pas agréable. Surtout quand on est une personne qui est exclue, déjà. Alors, la prochaine fois que vous avez besoin d'un coup de main, la prochaine fois que vous avez besoin d'aide, prochaine fois que, voilà, appelez à l'aide votre voisin, appelez à l'aide votre collègue incroyant. plutôt que d'aller chercher un frère de l'Église. Et vous verrez comment les portes des cœurs vont s'ouvrir. Quand on a une relation qui n'est pas condescendante, mais qui a besoin de l'autre, les oreilles et les cœurs s'ouvrent. La deuxième pensée, c'est l'eau vive maintenant, c'est la solution. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre passage, de verset 10 à 26. Jésus répond aussitôt à cette femme, hein, au verset 10. Il lui dit, Jésus, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. J'ai vu un reportage il y a quelques jours sur le Somaliland. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce reportage. Le Somaliland, c'est au nord de la Somalie, au nord-est de l'Éthiopie. C'est une région dans laquelle il n'a pas plu depuis 2 ans. Le bétail meurt sur place. Les enfants sont tous dénutris. Déshydratés, il y a 13 millions de personnes qui sont menacées par la sécheresse. 13 millions de personnes menacées par la sécheresse. Imaginez la chose. Boire une eau claire, boire une eau fraîche, boire une eau abondante pour ces millions de personnes. C'est la chose la plus désirable qui soit. C'est la vie. Et Jésus prend cette image de l'eau et il dit, mais moi je vais vous donner une eau qui va demeurer dans vos cœurs, dans vos vies. Vous n'allez pas continuer sans cesse à venir la puiser. C'est la vie éternelle que je vous donne. Jésus dit en quelque sorte à cette femme, j'ai pour toi quelque chose qui est aussi fondamental et nécessaire sur le plan spirituel que l'eau sur le plan physique. Sans cela, tu es absolument perdu. Et Jésus il va encore plus loin au verset 14 puisqu'il dit que l'eau qu'il donne satisfait pour toujours. Et même que cette eau, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est comme si cette eau, elle va apporter une satisfaction profonde de l'âme. Il parle à la femme samaritaine comme s'il allait mettre le puits de Jacob, là, qui apporte cette eau fraîche continuellement, mais dans son cœur. Elle n'a plus besoin d'aller puiser. C'est là et ça jaillit de son propre cœur. Et du coup, cette femme, elle est bouleversée. Elle dit, mais oui, une source comme ça, je veux bien. C'est l'eau courante. Donne-moi cette eau. Donne-moi cette nouvelle eau. Qu'est-ce qui pourrait vous rendre heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait satisfaire vos cœurs? Vous procurer cette satisfaction, cette plénitude. Est-ce que c'est... Vous pensez peut-être, ah, si je pouvais connaître un amour romantique, ah, si je pouvais rencontrer le prince charmant, si je pouvais rencontrer la femme idéale. Peut-être vous dites, oh, j'aurais besoin d'un nouveau job, mieux payé, mieux valorisé. Peut-être vous dites, oh, j'ai besoin d'un nouveau truc, quoi, le dernier portable, l'iPhone 8, 7. Et si j'obtiens ça, alors j'ai vraiment de la valeur, quoi. Alors si j'ai ça, c'est super, j'ai de l'importance. Si j'avais ça, je me sentirais en sécurité. Je me sentirais bien. Et lorsque nous réfléchissons comme ça, et c'est souvent le cas, nous cherchons notre bonheur dans un élément qui est extérieur à nous, à notre cœur. Or Jésus dit, ici, rien à l'extérieur de nous ne peut réellement étancher la soif profonde de nos cœurs. Il y avait une pub il y a quelques années sur, pour des lunettes. Et on voyait une personne assez déprimée qui disait j'ai changé de mari, j'ai changé de voiture, j'ai changé de boulot, j'ai changé de coiffure. Puis visiblement, elle était toujours aussi déprimée. Et puis l'autre répondait, visiblement très épanouie, moi, j'ai changé de lunettes. J'aimais bien cette pub parce que quelque part, c'était l'idée, je suppose, hein, du publiciste, c'est j'ai changé ma manière de voir. J'ai changé ma manière de regarder les choses. Au fond, c'est mon cœur qui a changé. C'est mon attitude qui a changé. La plupart du temps, on pense qu'il faut qu'une nouvelle chose nous arrive. Il nous faut un nouveau truc, une nouvelle personne, une nouvelle job, une nouvelle circonstance, une nouvelle situation. Et on aspire tout le temps à ça. Mais on a beau avoir des nouveaux trucs, les choses de notre cœur ne changent pas. La plupart du temps, en fait, et c'est la raison pour laquelle on cherche toujours comme ça à changer, la plupart du temps, nous ignorons la profondeur réelle de notre soif. On ne comprend pas véritablement de quoi est-ce que l'on a soif. Et tant que nous pensons avoir une bonne chance de réaliser « Ah, je pense que cette fois-ci, avec ce mari-là, ça va le faire. » Alors du coup, ça nous, tant qu'on a cette espérance, ça nous fait galoper, ça nous fait espérer. Quand j'aurai ce truc-là, quand j'aurai déménagé, quand je vais avoir changé de boulot, quand je vais avoir changé de quartier ou de ville, ça ira mieux. Et ça entretient notre rêve, mais en fait, on n'est jamais satisfait. Notre vide intérieur demeure. C'est pourquoi Jésus dit à cette femme, pour essayer de mettre en évidence son problème, sa soif, il lui dit « Va, appelle ton mari, et puis comme ça on va pouvoir en discuter avec lui. » Et elle dit « Eh bien, j'ai pas de mari. » Et verset 17, Jésus dit « Tu as eu raison de dire que tu n'avais pas de mari, parce que tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. » En ça, t'as dit vrai. Il dit clairement, tu cours après un mari. Et Jésus, il pointe là une attitude dans son cœur. Il lui fait comprendre qu'elle se trompe toujours sur la nature de son vrai besoin, de sa soif. Et fond, Jésus, lui, il a une connaissance surnaturelle de cette femme. Comme il a une connaissance surnaturelle de notre cœur, il sait exactement quelle est la soif qui est au fond de nos cœurs. Nous, on arrive à se tromper, mais lui, il sait. Cette femme, elle a compris qu'il avait une connaissance surnaturelle. Il vient de débarquer à Sichar, il n'est même pas encore entré dans la ville. Il connaît déjà tout de moi. Il lui dévoile sa soif. Tu cherches dans la relation amoureuse à étancher ta soif. Tu as soif d'être aimé, tu as soif de plaire, tu as soif que l'on prenne soin de toi, mais tu attends tellement de cette relation que tu es toujours déçu. Aucun homme n'a pu satisfaire cette soif. Tu en as déjà usé 5 et tu as encore soif. Et le 6e, là, il montre déjà des signes de faiblesse. Il montre ses limites. Alors ne cherche pas parmi les hommes ce que Dieu seul peut offrir. Nous cherchons à satisfaire nos cœurs par des choses terrestres, mais celles-ci se révèlent toujours incapables d'étancher notre soif. Comme l'exprimait Augustin dans ses Confessions, il dit « Ô Seigneur, tu nous as créés pour toi, et nos cœurs demeurent agités jusqu'à ce qu'ils trouvent le repos en toi. Vous pouvez passer de partenaire sexuel en partenaire sexuel. » Comme elle l'a fait elle, d'ami en ami, d'emploi en emploi. Vous pouvez passer d'église en église ou de passe-temps en passe-temps. Vous pouvez encore essayer de passer de coiffure en coiffure. De garde-robe en garde-robe, de voiture en voiture, de lieu de villégiature en lieu de villégiature. Mais cela ne comblera jamais le vide qui est dans votre cœur. Quelque part, qu'est-ce qui se passe? Ces choses que l'on idéalise pour pouvoir étancher notre soif deviennent nos dieux. Et alors, on est prêt à servir ces choses-là. On sacrifie du temps, de l'argent pour ces choses-là. Et nos cœurs restent vides. Et nos cœurs restent insatisfaits. Ces choses-là, elles ne peuvent pas tenir les promesses qu'elles prétendent. Elles ne satisferont jamais nos cœurs. Vous ne connaîtrez pas la satisfaction. Vous n'en aurez jamais assez. Vous aurez encore soif d'attention, soif de pouvoir, soif de conquête, soif d'argent. Jésus dit, à moins que tu ne m'adores, à moins que je ne sois le centre de ta vie, à moins que tu n'essaies d'étancher ta soif spirituelle grâce à moi, tout ce que tu adores, tout ce en quoi tu cherches ta satisfaction, ta sécurité, finira par te décevoir. Le péché, ça consiste à chercher notre salut ailleurs qu'en Dieu. En Jérémie chapitre 2, verset 13, Dieu plaide avec son peuple. Et il dit ceci, il dit « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et c'est tout le drame de cette femme. Elle cherche encore un mari, encore... Et son cœur reste vide. Je ne sais pas si à ce moment-là, la conversation est devenue peut-être un peu trop personnelle. Ou est-ce qu'elle est saisie par le fait qu'il lui ait dit tout ce qu'elle avait fait. Et du coup, elle le considère comme un prophète au verset 19. Et du coup, elle va lui poser la question qui est au fond au cœur de tout le conflit entre les Samaritains et les Juifs. La question c'est qui a raison en fait hein? Qui est-ce qu'on doit croire? Où faut-il adorer? Alors elle parle donc de Garizim ou Jérusalem? C'est les Samaritains qui ont raison ou c'est les Juifs? Et Jésus dit, versets 23 et 24, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Garizim ou Jérusalem, c'est encore une histoire extérieure. C'est encore des choses extérieures, ça ne va pas remplir ton cœur. Souvent, quand on veut s'approcher de Dieu, on pense, ah oui, il faut que je lise la Bible, il faut que j'aille à l'église, il faut que je... Et puis on se fait, donne des règles. C'est des choses extérieures. Et Jésus dit ici, moi ce que je veux, c'est votre cœur. En esprit et en vérité, c'est-à-dire d'une manière authentique. Je veux avoir une relation avec toi. Ce que je veux, c'est tes affections, je veux ton désir. L'expression qu'il emploie ici, l'heure vient, hein, annonce une nouvelle fois l'heure de la croix, l'heure de la résurrection, de la glorification de Jésus. On avait déjà vu ça au chapitre 2. Et donc Jésus, il déclare, lorsque cette heure sera venue, il ne sera plus question de cette montagne de Jérusalem, de Garizim pour adorer, mais on pourra, par la foi en Christ, l'avoir en nous, la source d'eau vive. Le temple, ce sera notre cœur. Alors notre corps, il pourra se trouver dans un bus, il pourra se trouver dans un bureau, il pourra se retrouver dans une prison ou dans un champ. Peu importe, notre esprit pourra adorer Dieu de tout son cœur. Et ça, c'est la garantie d'une communion permanente Les Juifs, ils avaient réduit l'adoration à des formes et à des cérémonies extérieures. Ils pensaient que, en pratiquant à la lettre la loi ou en passant par tout un tas de rituels, ils allaient adorer le Père. Mais il ne s'agissait pas d'une adoration en esprit, c'était une adoration extérieure, pas intérieure. Leur corps avait beau être courbé jusqu'à terre pour prier, leur cœur n'était pas juste devant Dieu. Qu'en est-il de votre adoration? Est-ce qu'elle est formelle ou est-ce qu'elle provient de votre cœur? Est-ce que votre cœur, il est porté vers Jésus? Vos désirs sont portés vers lui? Est-ce que c'est votre affection? Est-ce qu'il est votre ami devant lequel vous pouvez répandre votre cœur? Lui dire vraiment là où vous en êtes? Lui faire connaître véritablement vos besoins? Ou vous venez encore pour satisfaire d'une certaine manière, un Dieu par une genouflexion, par une courbure, une position, ou quelque chose que l'on récite, ou quelque chose que l'on vit que d'une manière extérieure. Jésus, lui, s'intéresse à notre cœur, à l'authenticité. Et cette femme, elle est tellement touchée par les paroles de Jésus ici, elle dit, mais le Messie, je sais que le Messie doit venir et lui, il va tout nous dire. Et Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Dans les Écritures, Jésus parle très rarement comme ça. Très rarement, à un moment, lors de son procès, on lui dit, mais alors, on t'en supplie, dis-nous si tu es le Messie. Et là, il dit à cette femme samaritaine, le Messie, c'est moi. Ça ne peut pas être plus clair. Et cette femme, elle est bouleversée par ça. Et elle comprend à ce moment-là, le Messie est là, et c'est lui que je dois inviter dans ma vie, dans mon cœur. Et quand elle comprend ça, instantanément, elle est réconciliée avec elle-même, avec son Dieu. Et même avec toute la population. À ce moment-là, les disciples débarquent, là, ils viennent. Mais elle s'en va. Elle laisse sa cruche. Même plus besoin de sa cruche. Elle croit. Versets 28 à 30. Laissant sa cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Et à ce moment-là, les gens sortent de la ville et ils vinrent vers lui. L'eau vive répandue. Ça y est la mission. C'est magnifique, hein? Cette femme a saisi Christ pour elle-même et à l'instant, celle qui était évitée la compagnie des autres à cause de sa vie est prête à rencontrer chacun et à faire face à sa situation. Elle est justifiée. Elle n'a plus besoin d'un nouveau mari ou d'une nouvelle romance. Elle a Christ. Et le contraste est saisissant parce que tout ce que le monde peut offrir, est incapable de remplir le cœur humain, tandis que les bénédictions que Christ nous accorde, non seulement remplissent nos cœurs, mais même débordent autour de nous. Elle est obligée de répandre la bonne nouvelle, d'avertir les autres, tous les habitants de Sichar, qui se pensent peut-être être meilleurs qu'elle. Ils ont tous besoin de cette eau vive. J'aime l'expression quand elle dit au verset 29, « Venez voir un homme !» J'imagine la population. Encore ? Encore un ? Septième ? Oh, lui, il n'a fait que 2 mois. Non, non, un homme qui... C'est pas ça. C'est un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il n'y a que le Messie qui connaît ça. C'est Dieu qui est là. Il connaît tout de ma vie. Et il m'aime. Et il ne m'a pas condamné. Il ne m'a pas rejeté. Et ça, c'est ce qui bouleverse son cœur. Pendant ce temps-là, les disciples qui sont arrivés poussent Jésus à manger quelques nourritures. Il était fatigué. Alors ça va le fortifier. Mais Jésus vient de manger une nourriture qui le rassasie. J'ai pas faim. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Il dit, il y a un marchand ambulant qui est passé pour lui donner un truc ou quoi. Ma nourriture, la nourriture que j'ai, c'est mieux que toutes les figues, toutes les dattes, tous les pois chiches ou tous les kebabs sauce blanche que vous pouvez m'apporter. C'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est ça qui rassasie mon cœur. Et la volonté de mon Père, c'est que je vienne, que j'annonce l'Évangile à cette femme. Vous vous souvenez, au tout début de notre passage, il est écrit au verset 4, « Comme il fallait, qu'il passe par la Samarie. » La volonté de son Père était cette rencontre avec cette femme pour lui faire connaître le salut. Et c'est plus que ça même, c'est faire connaître le salut à toute cette ville. Et quand cette femme arrive avec toute cette foule, eux, ils commencent à découvrir ce messager. Et ils disent, il est vraiment le sauveur du monde. Pensez à cette parole des Samaritains. Que les Juifs que les Juifs soient sauvés, que les Samaritains, vous savez, ils disent, il est vraiment le sauveur du monde, il nous a sauvés, nous, il veut aussi sauver tous les autres. Et c'est ça qui est le message de l'Évangile, c'est-à-dire, le message de l'Évangile, quand ça rentre dans le cœur, ça bouleverse tellement nos cœurs, qu'on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Et donc, ça doit nécessairement jaillir vers les autres. Donc, il est l'instant où il devient mon sauveur, il est aussi le sauveur du monde et je vais le porter aux autres. Et c'est pour ça que Jésus, quand il parle de sa nourriture, il dit, vous dites, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais levez les yeux. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Et à ce moment-là, qu'est-ce que les disciples voient? Mais ils voient la foule qui descend de Sichar. Tous ces gens que la femme samaritaine vient à parler, auxquels elle a parlé, ils viennent là. Et Jésus dit, voilà la moisson est prête. Les gens que vous ne regardiez pas comme méritant le salut, comme intéressés par l'Évangile, les gens chez lesquels vous avez eu du mal à aller même acheter de la nourriture, c'est quand même de la nourriture samaritaine. Ceux-là même, ils veulent recevoir le Messie. Ils veulent connaître et goûter à l'Évangile. Ils veulent se laisser transformer et aller annoncer à leur tour le message de l'Évangile. C'est magnifique. L'eau vive, elle est faite pour être répandue. Et depuis des siècles, l'eau vive se répand. L'eau vive, elle bouleverse nos cœurs et elle se répand sur les autres. Notre tâche, c'est de répandre cet évangile. Tout cela, tout arrive parce que Jésus a eu soif et qu'il s'est arrêté au puits de Sichar. Et ce n'est pas la dernière soif. Ce n'est pas la dernière fois qu'il aura soif. En Jean chapitre 19, alors qu'il est crucifié, Jésus a dit, j'ai soif. Il a dit, j'ai soif, pas simplement parce que la crucifixion provoque une soif intense. Que l'exposition sur cette croix en plein soleil provoque cette soif. mais il dit, j'ai soif, de la soif de ce monde. J'ai soif de la soif que ce monde connaît, parce qu'ils ne sont pas liés avec la source, parce qu'ils ne connaissent pas la source. Et au fond, quand il dit « j'ai soif », il est en train d'être identifié au péché des hommes, qui nous sépare de cette source. Quand il dit « j'ai soif », il dit « je suis coupé de la source pour que vous ne le soyez jamais, pour que vous, vous puissiez goûter et puiser à cette source, et que cette eau vienne abreuver vos cœurs, et qu'elle jaillisse jusque dans la vie éternelle et dans vos vies quotidiennes. » Voilà ce que le Seigneur a dit quand il a dit « j'ai soif ». C'est pour ça que ça doit nous encourager aujourd'hui à partir dans ce monde et à parler aux gens, peut-être que l'on regarde avec condescendance jusqu'à présent, à des gens auxquels on dit « oh, ceux-là, jamais ils entendront l'Évangile, jamais ils seront intéressés à venir ». Parlez-leur. Personne n'aurait parlé à la femme samaritaine. Jésus l'a fait. Allez chercher ces gens. Allez chercher et poser un autre regard sur les gens. Aimez-les comme Jésus a aimé cette femme samaritaine. Entrez en conversation. Demandez-leur de l'aide. De sorte qu'un jour, ils puissent vous demander mais d'où te vient cette eau, d'où te vient cette vie, et que vous puissiez le dire, c'est Jésus qui l'a fait pour moi. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur, parce que tu nous as aimés. Nous qui étions des étrangers pour toi, nous qui ne te cherchions pas, nous qui étions dans le péché, nous qui étions séparés de toi, nous qui cherchions dans ce monde toutes sortes de puits auxquels puiser, des choses qui nous ont laissés encore plus secs, encore plus vides. Et Seigneur, jusqu'au jour où toi tu t'es approché de nous, que tu t'es révélé à nos cœurs, comme le Messie, celui qui meurt pour nous, celui qui prend nos péchés et qui change nos cœurs, qui vient habiter en nous et remplir nos âmes, de sorte qu'on ait pu aller courir après toutes sortes de changements dans nos vies, mais simplement se reposer en toi. Ô Seigneur, viens à notre secours pour qu'on puisse voir de ta manière et aller au-devant des âmes, de celles que tu as mis autour de nous dans ce quartier, dans notre travail, dans nos familles, ceux pour lesquels on a un regard peut-être méprisant ou incrédule, ceux que l'on pense ne jamais vouloir de ton évangile. Seigneur, remplis-nous d'amour pour eux. Aide-nous à leur parler de toi, comme tu l'as fait avec cette femme, par Jésus-Christ. Amen. Amen.